Juste une tranche de millefeuille. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio, en compagnie de Christine. Le dernier roman à l'honneur de Juste une tranche de millefeuille était un thriller français qui se déroulait sur 2 jours dans un hameau, en pleine campagne. Avec cette 8e tranche de notre millefeuille, je vous convie à nouveau dans ce genre littéraire avec un roman noir, très noir, mais aussi d'une très grande force, qui commence à Montréal et nous entraîne dans une traversée sauvage de l'Amérique du Nord jusqu'au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, en compagnie de son héros, Wash Depsch. Ce roman, c'est Anima et son auteur, c'est Wajdi Mouawad.
Un jour, c'était en 2000, il se trouve qu'un de ces multiples débuts qui a commencé m'a tenu puissamment. J'ai écrit quelque chose qui était là, qui est l'histoire de quelqu'un décrit un homme qui rentre chez lui après une journée de travail et qui découvre dans le salon de leur appartement sa femme sauvagement assassinée. Et la découvrant, s'écroule et pris évidemment d'une tétanie, d'une surprise telle, d'une violence folle, je reste complètement évanoui. Finissant d'écrire ce premier chapitre, j'ai eu le sentiment très très fort, premièrement d'avoir simplement l'envie de rester à l'intérieur de cet univers-là qui était là. Et puis rapidement de me poser la question, mais qui parle ? Qui raconte ça ? Et il se trouve qu'à travers les phrases, en retravaillant le texte, je me suis rendu compte que c'était le chat. C'était ce chat-là, le chat de ce couple, qui voit rentrer son maître et qui découvre sa femme morte. Et donc, le chapitre suivant, le lendemain, j'étais assez excité de retrouver cet univers-là. Eh bien, on retrouve le personnage du mari dans la chambre d'hôpital où des gens l'ont transporté. Et là, c'était les oiseaux à la fenêtre de sa chambre qui le regardent et qui décrivent dans les visites qu'il reçoit, l'état dans lequel il est. Et petit à petit, une sorte de compassion folle me prenait, et pour le personnage, mais aussi pour les animaux qui parlaient, sans trop comprendre, mais pourquoi c'est des animaux, pourquoi c'est le point de vue des animaux. Mais ce que je savais, c'est que je ressentais un désir profond de rester avec cet univers-là, de rester avec cette histoire proche de moi.
C'est donc Wajdi Mouawad que nous venons d'entendre dans une vidéo réalisée en 2013 pour Actes Sud, dans le cadre de la présentation de son roman Anima. Alors, âme sensible, sans doute vous aurez envie de passer votre chemin, et je peux vous comprendre. Mais pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l'univers de ce roman, entrons tout de suite au cœur de l'écriture de Wajdi Mouawad avec le début d'Anima, dont le premier narrateur, vous le savez maintenant, est un chat. Felis Silvestris Catus Carthusianorum. Ils avaient tant joué à mourir dans les bras l'un de l'autre, qu'en la trouvant ensanglantée au milieu du salon, il a éclaté de rire, convaincu d'être devant une mise en scène, quelque chose de grandiose, pour le surprendre cette fois-ci, le terrasser, l'estomaquer, lui faire perdre la tête, l'avoir. Lâchant le sac plastique jaune, le matin même, elle lui avait dit de sa voix enjouée « Tu achèteras du thon, car le thon, c'est bon. » Il comprenait qu'elle était morte, puisqu'elle avait les yeux ouverts, le regard fixe, et tenait entre ses mains sa blessure, le couteau planté là dans son sexe. Ôter la terre dessus ma tête, voulut-il hurler comme au jour ancien où des hommes l'avaient enterré vivant. « Il ne faut pas que je pleure, » s'était-il répété. « Si je pleure, si je crie, ils recommenceront, me sortiront, me tueront et me remettront dedans. » Et là encore, debout au milieu du corridor de l'entrée, perdant la mesure du temps, il n'a pas bougé, n'a pas respiré, de peur que cela ne recommence, qu'elle ne meure de nouveau, ce qui était absurde enfin, puisqu'elle était morte de toute évidence, les mains grippées à la lame, bouquet de fleurs sur son ventre cassé. Sans doute avait-elle tenté de retirer le couteau durant son agonie, je l'ignore, mais si tel était le cas, elle a dû mourir avant, l'effort exigeant trop de sang. Il a imaginé, j'en suis sûr, les derniers battements de son cœur, poisson-chat au milieu de la poitrine, abandonné à lui-même, entraîné vers les profondeurs. Il a imaginé, j'en suis sûr, son sang courir une dernière fois, fuite effrénée, aveugle, à travers le dédale de ses veines, pour jaillir comme un éclat de rire par la blessure ouverte, son sexe où le couteau avait été planté, puis replanté, et replanté encore. Léonie, Léonie, ce n'était rien, ni un appel, ni une plainte, à peine un souffle, le réflexe du quotidien. Il aimait tant dire son prénom, il y mettait chaque fois toute la douceur dont il était capable. Léonie, j'aime tellement dire ton prénom. Léonie, et on fait naître des libellules à chaque mouvement des lèvres. Léonie, il n'y avait plus de libellules. Devant lui se dressaient mobilier et objets, insupportables dans leur mutisme, leur indifférence au malheur. La lumière du jour, demi-teinte par demi-teinte, s'est retirée de l'appartement, aspirée à travers les deux grandes fenêtres comme au fond d'un entonnoir par le mouvement général du monde. C'était l'heure où le ciel, dans sa limpide beauté, conservait sa luminosité azurée, semblable aux vitraux de la cathédrale où j'aime traîner quelquefois. Je ne peux pas dire combien de temps il est resté sans bouger, combien de temps est passé avant qu'il n'aille s'agenouiller à ses côtés. Je le voyais, dans la lueur jaunâtre des lampadaires extérieurs qui éclaboussaient par taches une partie du salon. Il a approché son visage de son visage. Chaque instant nous éloignait d'elle. Léonie était pâle comme une étoile trop lointaine, bleuie par les ténèbres de la nuit. Il s'est redressé, a relevé la tête, il a cherché son souffle et se prenant le ventre de ses bras croisés comme pour calmer une crampe aiguë, il a eu un gémissement, ni cri ni pleur, davantage un vomissement rauque, créant une vibration telle que les vitres de l'appartement se sont mises à trembler dans leur cadre de bois. Le monde est immobile tant que les humains se tiennent debout. C'est une loi innée, inscrite dans mes gènes. Voilà pourquoi ma frayeur a été grande lorsque je l'ai vu à quatre pattes, les mains à plat dans la flaque de son sang, penché vers la surface pour en boire la couleur. Se relevant, il a regardé ses paumes et les a posées sur son propre visage. J'ai mangé le thon qui était dans le sac et bu l'eau des toilettes. Il y a eu la nuit, puis le soleil, et encore la nuit, puis des nuages et la pluie, et encore la nuit, et des oiseaux, avant que la porte ne soit fracassée et que des hommes que je ne connaissais pas ne viennent les prendre et les emporter tous les deux. Voilà, avec ce début et court extrait d'Anima, vous avez presque toutes les clés du puzzle que Wajdi Mouawad a minutieusement construit pour mener à bien la quête de son protagoniste, Wach Depch. La barbarie, signifiée dans le crime odieux perpétré à l'encontre de sa femme Léonie, cette même barbarie qui sera présente à plusieurs reprises dans le roman, parfois à la limite du supportable, le style de narration choisi qui prend forme par le biais d'un animal témoin et qui apporte une forme d'apaisement au récit. Et puis, tout au long de ce périple, le passé de Wash, qui va refaire surface par bribes. Ce roman, c'est donc la recherche par Wash du meurtrier de son épouse, quête sans désir de vengeance, mais avec la volonté de voir le visage de celui qui a commis cet acte monstrueux, visage miroir qui lui permettra peut-être de se libérer de la culpabilité de ne pas avoir réussi à sauver Léonie. Chaque chapitre du roman donnera donc la parole à un animal témoin de la quête de Wash, et chaque début de chapitre portera le nom scientifique de cet animal, ce qui vous amènera sans doute à rechercher parfois quel animal se cache derrière un nom énigmatique. Si ces narrateurs sont plus souvent des chats ou des chiens, l'histoire vous sera également contée par une araignée, une souris, des oiseaux, des chevaux, un singe, un boa, et j'en passe. La plus belle partition sera réservée à la voix de Mason Dixon Lyne, le chien sauvage et sauveur de Wash, qui prend la parole pendant toute la troisième partie du livre. Il faut saluer à cet égard avec quel brio Wajdi Mouawad se glisse dans la peau de chaque animal pour nous offrir un récit qui va passer par les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, même le goût, mais aussi le comportement de chaque animal, sans nous faire perdre de vue la place ou la considération que lui accordent les humains. Sans compter qu'il donne la part belle à ces animaux qui sont doués d'une sensibilité, d'une bienveillance, d'une fidélité sans faille à l'égard de leur maître et d'une compassion à l'égard d'humains qui sont, eux, pour le moins, souvent beaucoup moins fréquentables, voire capables d'une barbarie sans nom. À tel point que je connais un lecteur qui, après la lecture d'Anima, a cessé de consommer de la viande. C'est vous dire la force de ce roman. À ce titre, il convient de se pencher aussi sur le titre choisi par Wajdi Mouawad pour son roman, Anima, qui signifie l'âme, mais qui a aussi donné le mot animal. Et comme dans son théâtre, Wajdi Mouawad nous offre de très beaux personnages féminins avec Anima, femmes guides qui viennent épauler Wash dans sa recherche, femmes protectrices qui vont lui offrir des havres de paix et de réconfort, moments de répit dans sa course marquée par la violence et la cruauté des hommes. Quatre parties composent ce récit, chacune portant un titre latin, Bestiae Verae, les vraies bêtes, Bestiae Fabulosae, les bêtes légendaires, Canis Lupus Lupus, une appellation regroupant à la fois chien, loup et dingo, et Homo Sapiens Sapiens, pour l'être humain. Les trois premières parties sont donc portées par la parole des animaux. La quatrième porte la voix du coroner qui est chargé de l'enquête sur le meurtre de Léonie. Et c'est ce même coroner qui dévoilera l'intrigue du roman à Anima, petit village du Nouveau-Mexique. Anima apparaît donc comme le récit de l'Odyssée du héros de Wajdi Mouawad. En effet, les références mythologiques ne manquent pas. Je pense entre autres aux noms des villes américaines traversées et qui existent bel et bien, comme Thèbes, Carthage, Virgile, jusqu'à Ulysse. Et sans dévoiler la fin de ce roman, ce n'est qu'au terme de cette odyssée donc que vous découvrirez comment le passé de Wash s'éclaire et le ramène à son enfance, à ses origines libanaises et à la guerre civile. Thank you. Anima est un livre puissant, car il aborde les périodes sombres des guerres civiles, que ce soit celle de sécession aux États-Unis et celle du Liban, sans oublier le sort réservé par les Blancs aux populations autochtones en Amérique du Nord, notamment la nation Ojibwé. Et si la violence et la cruauté des hommes imprègnent toute cette épopée, Wajdi Mouawad a aussi l'art de nous restituer la beauté des paysages traversés par son héros, de nous offrir un récit non dénué de poésie et de mettre en opposition à l'ombre de certaines figures masculines pour le moins malveillantes, la lumière d'autres personnages et celle des animaux. Je vous propose donc d'écouter un second extrait d'Anima, alors que Wash vient de confier une grue blessée à un refuge animalier, dans la réserve des Indiens Ojibwé, justement, et c'est Shelly, amérindienne, qui parle à Wash. Et c'est Antoine qui nous en fait la lecture.
Loi d'intégration canadienne. Tu veux savoir ce que c'est, la loi d'intégration canadienne ? Il n'a pas répondu tout de suite. Il regardait Shelly avec un léger tremblement. Il s'est reculé sur son siège. Il a seulement dit « Oui ». Tu as 4 ans et tu te prépares à aller souper. Une voiture de la Gendarmerie royale du Canada se gare devant ta cabane et un officier vient frapper à la porte et il dit à ta mère qu'il est là pour chercher la petite Shelly en vertu de la loi d'intégration canadienne des autochtones qui oblige chaque enfant à s'exiler loin de sa tribu et de sa réserve. Ma mère ne dit rien. Elle vient pas m'habiller. Elle vient pas m'embrasser. Elle me donne pas ma poupée. Elle fait juste un signe de la tête pour dire au gars de la gendarmerie que la petite indienne qu'il est venu chercher, c'est moi, et que mon manteau est dans le placard à côté de l'entrée. Elle me dit juste de suivre cet homme-là et de pas faire d'histoire. Je me lève. Je lui arrive à la hauteur des bottes brunes et brillantes. Il me met mon manteau et me fait monter dans sa voiture et referme la portière. Elle claque avec un son que j'ai jamais oublié. Encore aujourd'hui, quand je monte dans un char et que j'entends la portière claquer de cette façon-là, j'ai toujours 4 ans. J'ai été placé dans une famille blanche du sud de l'Ontario, à plus de 700 kilomètres de la réserve où je suis né. Tu comprends ? Un jour, plus tard, j'avais 10 ans, ma famille d'accueil m'a amené visiter la réserve. J'étais tellement excité de retrouver l'endroit où j'étais né et où j'avais grandi, la terre de mes ancêtres. Une fois là-bas, je suis resté dans la voiture. J'ai pas voulu sortir. Je ne voulais plus regarder. Toute mon excitation avait disparu. J'avais juste honte. J'avais honte. C'est ça, la loi de l'intégration canadienne. Apprendre à l'Indien à avoir honte de sa tribu et de sa terre. J'ai eu une colère contre moi. Parce que je ne voulais pas que moi, je vienne de cet endroit où je voyais juste des choses horribles par la fenêtre. C'était laid. Tout était laid. À partir de là, j'ai vécu dans l'exil pendant tout le reste de ma jeunesse, l'adolescence et toutes les années des 20 ans. Je n'ai jamais dit à personne d'où j'arrivais, que j'étais une Ojibwé. Je voulais pas que ça se voie, que ça se sache. J'ai appris l'anglais, le français. J'ai tout fait pour être une Canadienne blanche, parfaite, assimilée, honorable. Mais c'était l'exil. En dedans de moi, c'était l'exil. Je ne faisais pas de différence entre Huron, Mohawk, Cree, Abenaki ou Ojibwe, mais je ne pouvais pas avoir une épave amérindienne sur les trottoirs de Toronto sans changer de coin de rue. Je détestais les Indiens, j'haïssais tout ce qui était folklore, les totems, tout l'artisanat, les gros touristes pleins de cash. J'haïssais ça, je ne voulais pas appartenir à ça. Il y avait plein d'émissions à la télé pour parler de ça. The Indian Question. Des commissions, des enquêtes, des études. Ça parlait de l'alcool, de la contrebande de cigarettes, des mocassins, puis du taux de suicide dans les réserves. Mais jamais, 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 j'ai entendu quelque chose sur ce que j'avais vécu, moi. Moi, je buvais pas, je trafiquais pas, je me suicidais pas, pas encore en tout cas. Je fabriquais pas de mocassins. Moi, j'ai juste été déménagé. Et de ce déménagement-là, personne n'en parlait. Comme si ça n'avait pas existé, comme si j'avais été la seule à vivre cette affaire-là. Je ne sais pas d'où tu viens, ni d'où tu arrives, mais tous les Canadiens de mon âge, qu'ils soient blancs ou rouges ou whatever, sont tous des enfants des lois d'intégration canadienne. Puis personne ne le sait. Et là, je te parle, je te conte tout ça, mais moi, j'ai été chanceuse de tomber sur une famille d'accueil qui a été correcte avec moi. Plus que correctes, qui ont tout compris, qui m'ont aidé, m'ont encouragé comme des vrais parents, qui se sont battus pour faire changer la loi. Je veux dire, c'est du beau monde qui m'ont aimé.
Paru en 2012 chez Actes Sud, Anima est le second roman de Wajdi Mouawad, récompensé notamment par le prix Méditerranée du Centre Méditerranéen de Littérature et le prix du deuxième roman, décerné par Lecture en Tête, à Laval, en 2013. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Wajdi Mouawad et de découvrir ce roman. On connaît davantage Wajdi Mouawad pour son œuvre théâtrale et ses mises en scène. Je pense bien sûr à sa formidable tétralogie « Le sang des promesses » qu'il a commencé à écrire alors qu'il résidait à Montréal en 1997. C'était « Littoral » qui sera suivi d'incendies, de forêts et de ciel. Mais Wajdi Mouawad a consacré 10 ans de sa vie à l'écriture de ce roman. C'est une histoire qu'il a tissée au fil des années, en parallèle avec l'écriture de ses pièces de théâtre. Il dit qu'il a eu besoin de tout ce temps pour comprendre où l'amenait ce récit. À travers l'écriture d'Anima, c'est la mémoire de Wash, la mémoire de l'exilé qui ressurgit à travers les territoires traversés, la langue de l'autre et l'animal. Et si le nœud de ce thriller résonne énormément avec l'histoire personnelle de Wajdi Mouawad, qui est né au Liban en 1968 et y a passé ses premières années, on retrouve aussi dans ce livre ses grands thèmes de prédilection, ceux qui traversent également son œuvre théâtrale, la guerre, l'héritage, la vengeance, le pardon et toujours le désir de réconciliation. Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle tranche, toujours sur l'autre radio.